Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Alors, nous allons donc écouter Kenza pour la présentation du BTS Commerce International.
Bonjour Fénoul. Alors du coup, comme le disait Loris en début d'émission, alors on est du coup des étudiants en commerce international, on est en deuxième année. Alors le BTS Commerce International, pardon, c'est un BTS qui peut se faire à la fois en continu ou alors en alternance. Nous, on est tous en continu. Alors la première année de commerce international, elle a plus été sur l'aspect de la prospection et du suivi de clientèle. Donc du coup, on avait comme matière la prospection et la suivi de clientèle. On avait l'étude et la veille des marchés étrangers et de l'informatique commerciale avec les langues LV1 ou LV2, donc anglais, espagnol, italien ou allemand. Et du coup, le BTS Commerce International, c'est pour des étudiants qui aimeraient du coup, entre guillemets, partir à l'étranger pour y travailler. Donc on a beaucoup l'aspect de la langue dans notre BTS avec l'aspect commercial. Et en deuxième année, du coup, cette année, on est plus sur la gestion des opérations import-export. Donc on étudie beaucoup, la logistique, les frais de douane, les taxes, etc. Alors en première année, on avait tous à effectuer un stage à l'étranger. Donc on a pu partir dans des pays comme, il y a eu Dubaï, la Suisse, les États-Unis, Malte, le Luxembourg, l'Allemagne, etc. Et la deuxième année, on doit du coup choisir un stage soit en France, soit à l'étranger, en rapport du coup avec la logistique. Et on peut l'effectuer du coup soit en France, soit à l'étranger, de préférence en Union européenne.
Merci Kenza pour cette présentation de la classe de première et deuxième année de BTS Commerce International.
Nous allons donc écouter Sadek, Granit et Lucas pour le transport des œuvres d'art.
Alors pour cette partie, nous allons parler en anglais parce que c'est une composante très importante du BTS Commerce International. So I'm Granit. I will talking about the transport of the art exposition, the Rodin exhibition. First year student went to Saarbrücken on November 13 at the Museum of Modern Art to admire the Rodin exhibition. It took 3 years to set up this exhibition, and 44 works of art were loaned to the museum as part of this project. They come mainly from Paris and were transported in custom boxes filled with polystyrene, insofar as it must not undergo any temperature difference. The crates are also locked from the start of the arrival. This work is always done by a qualified person to avoid any risk of breakage.
Yes, like my friend Granit says, and I will continue, it's a very famous museum, so that's why they trust them and lent the art pieces. In addition, the museum paid for the transport. The logistics services of the museum have made calls for tender and managed to gather more than 40 trucks to transport the artworks. The change of the exhibitions takes place every 3 months. It takes 2 weeks to realize the settings and 1 to clean the room before the opening. The exhibition cost more than 500,000 work staff, security and overall cost. The whole is funded by the German Ministry of Art and Culture. VAT is 19% for works from the USA and Asian countries. In Europe, it is mostly a loan, so there are no taxes or special customs taxes.
Then, the humidity rate must be of 55% and shouldn't be above or below to prevent the artworks to be harmed, so to keep them away from dryness and moisture. It is controlled with moisture captors set in the cases. Also, with that, temperature must be of 21 degrees Celsius, and the work shouldn't be exposed to bright light to prevent colors to be erased. Then some tests are done to prove authenticity of these pieces, thanks to X-ray scanner or laser scanning. For example, if a statue is hollowed on the inside, it must be a fake. To protect everything, alarms are put everywhere, even on the wall of the room in the museum, so to avoid people to harm something or even themselves. What we have to know if the artworks remain the artistic property of the artist family during 70 years. Otherwise, it could be by a museum or people. And in order to restore work, it takes a lot of time and a pretty meticulous workforce. For example, 8 hours a day during 6 months to add pigments by hand and to prevent colors to not disappear. So that's all.
Merci messieurs pour cette présentation
merci
du
à vous.
Transport
You're
des
welcome.
Merci à vous.
Thanks.
Thank you, comme vous direz en anglais. Alors, nous allons donc écouter Oussama pour la présentation de la radio de 1930 à nos jours aujourd'hui.
C'est exact. Bonjour Fenoul, bonjour Loris.
Bonjour.
Bon alors, je me présente, je suis Oussama, je suis étudiant en deuxième année de BTS Commerce International au lycée Alfred Média à Longwy. Le thème que nous allons évoquer en ma présence, c'est l'histoire de la radio. Et oui, la radio aussi a une histoire et il est important de la connaître. En effet, nous avons tous déjà allumé notre poste de radio pour écouter l'actualité ou même la musique. Aujourd'hui, la radio est moins populaire par rapport à une certaine époque, notamment chez les jeunes. Nous allons voir comment ce média a évolué au cours des époques. Dans un premier temps, il est important de distinguer média et radio, car la radio est un média parmi tant d'autres, tels que la presse, la télévision ou encore le cinéma. En effet, il est important de distinguer média et radio, car la radio est un média parmi tant d'autres. Ça, je l'ai déjà dit. Du coup, je vais vous présenter quelques dates clés en rapport avec le thème pour nous situer dans le contexte. La radio, c'est un support technique pour diffuser l'information à l'opinion publique. Au cours de l'histoire, les médias ont influencé l'opinion publique, notamment dans l'affaire Dreyfus, la Première et la Seconde Guerre mondiale. La radio a joué un rôle historique au cours du XXe siècle. En effet, vous connaissez tous la date du 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle qui s'est fait à la radio pour résister face à l'Allemagne nazie. Du coup, vous avez bien vu que c'est une date assez cruciale au cours de l'histoire, parce qu'elle a changé le cours de l'histoire.
D'accord.
L'ordonnance du 23 mars 1940 en France qui établit le monopole d'État sur les stations de radio. Les radios n'étaient pas, entre guillemets, libres à une certaine époque. Elles étaient contrôlées par l'État et elles ont acquis une certaine liberté qu'à une certaine époque. En 1954, les premiers postes à transistor arrivent et ça permet à chacun d'écouter la radio partout. Cette dernière n'est plus familiale, mais elle est individuelle. Du coup, n'importe qui peut écouter la radio à n'importe où. En 1981, François Mitterrand met fin au monopole de la radiodiffusion en France et les radios pirates deviennent des radios libres. Voici quelques dates importantes que j'ai pu évoquer. Et en cours, nous avons aussi évoqué un sujet par rapport à la radio. C'était de Lorraine Cœur d'Acier. C'est une radio que ma prof, Madame Casoni, nous avait parlé. Et je me suis dit qu'il était important de faire part de cette radio, car elle a joué un rôle au cours de l'histoire de la sidérurgie dans notre région.
Ah oui, effectivement.
Et si vous avez quelques questions en plus pour la radio...
Non, je pense que on a bien compris ce que tu as dit. En tout cas, merci beaucoup, Oussama.
Merci beaucoup, Oussama.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Alors, nous allons donc écouter Yacine, Marina, Sadek et Granit pour le débat sur le MMA. Nous vous écoutons. Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Donc, tout d'abord, je vais commencer par introduire ce que c'est le MMA. Le MMA signifie Mixed Martial Art. En fait, c'est un sport d'arts martiaux mélangé entre la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise qui est boxe pied point coude, le jiu-jitsu brésilien, on parle aussi de grappling, c'est du sport au sol qui consiste à faire des clés de bras, des clés de jambes, mais également du judo, du karaté, pour tout ce qui est déséquilibre ou encore coup direct. Le MMA a été légalisé dans beaucoup de pays depuis quelques années. Bientôt légalisé en France, on l'espère, pour ceux qui sont pour ce sport. Donc c'est pour cela que moi et ma collègue à ma gauche sommes pour la légalisation de ce sport en France.
Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, Sadek et moi, sommes contre ce sport, contre la légalisation en France. Et,
ce n'est pas vraiment un sport. Hein.
Et on va mener un débat pour contrer les arguments de nos collègues.
Ok, d'accord. Donc, comme vous l'avez dit, monsieur Sadek, ce n'est pas vraiment un sport. Je suis désolé pour vous, mais je vais direct contredire votre argument. C'est un sport d'arts martiaux,
d'autant plus qu'il en mélange plusieurs. Il y a des vraies valeurs, comme ma collègue va vous l'expliquer, les valeurs qui sont mises en avant dans ce sport, dans tous les sports de combat en fait.
Pour moi, se taper volontairement entre deux individus, j'appelle pas cela du sport. Ce sport peut conduire à la mort et à des séquelles très lourdes pour les combattants. Je m'intéresse plutôt à l'image qu'elle donne dans la société.
D'accord. Ben, en fait, c'est une accusation classique que tous les sportifs de haut niveau qui font du combat sont menés à avoir. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas seulement... Vous avez pris la première image, en fait, du combat, de se taper dessus, ça peut donner la mort, etc. Je suis sûr que ce ne sont pas vos vrais arguments, ce sont plutôt des autres arguments que vous avez été chercher dans des médias ou que ce soit sur Internet.
Je ne vous autorise pas de m'accuser de ceci.
Je ne vous accuse pas.
J'ai des idées et je les exprime.
Bah voyons, nous allons voir vos idées du coup. Je vais vous expliquer. Je suis quelqu'un qui fait du sport de combat depuis petit. Je les ai mélangés, que ce soit du judo, du karaté, de la boxe anglaise, de la boxe thaïlandaise.
Je vous félicite.
Pourtant, regardez mon visage. Regardez mon visage. À part peut-être mes mains qui sont un peu abîmées, regardez mon visage, rien n'est abîmé. Donc, je suis désolé pour vous, mais se taper volontairement, comme vous dites, je pense plutôt que ce sport a apporté à toutes les personnes qui sont combattants plus de valeur que d'autres sports. Ce qu'on apprend, la régularité d'un entraînement, le fair play, le respect de soi, le contrôle. Et il n'y a aucun combattant qui se prédit être au-dessus d'autres. C'est juste, s'il y en a qui le font, c'est juste du show pour une certaine confiance en soi.
Moi j'estime plutôt que c'est assez violent quand même, et aussi qu'on vit dans une société de plus en plus sauvage. L'homme revendique toujours son côté bestial. Autoriser la MMA reviendra à ouvrir des portes de l'enfer pour moi, d'un point de vue personnel. On a déjà beaucoup de problèmes comme cela, et légaliser cela pourrait ouvrir des portes à autre chose encore, beaucoup plus grave.
Mais non, justement, je ne suis pas d'accord, je suis pour le MMA. Et justement, comme vous le dites, c'est un sport dangereux. Il y a des risques et les gens sont conscients de ce risque. C'est pour ça qu'il y a une vraie discipline mise en œuvre, beaucoup de respect, beaucoup de fair play. Il y a une vraie maîtrise de soi et contrôle de soi pour pratiquer ce sport.
D'accord.
En fait, moi, ce que je pense, c'est que là, il y a une montée en puissance du MMA dans tout le monde. C'est le sport numéro un. Et si c'est légalisé en France, ça va être le sport avec le plus d'adhérents. Ça va même dépasser le foot, je pense. Mais c'est parce que tous les autres sports, le judo va perdre beaucoup d'adhérents, le karaté aussi, la boxe anglaise, la boxe thaï, et en fait, c'est tous ces sports, ils vont perdre beaucoup d'adhérents. Du coup, en fait, ça va, le MMA, il va gagner, mais le MMA ne va pas être puissant parce que ils n'auront pas d'expérience, ils vont se créer un, le MMA, ce qui fait la force du MMA en ce moment, c'est parce que les combattants, ils ont un parcours de jiu-jitsu, de boxe, de plusieurs disciplines qui ne sont pas cohérentes entre elles. Et donc, ce qui va forcer, c'est ça, en fait.
Oui, je suis d'accord avec vous d'un point. Sauf que pour un combattant, si le combattant veut être le plus complet possible, il est obligé d'amener que ce soit du judo, de la boxe,
du jiu-jitsu
brésilien.
Il y a toujours du parallèle, en fait, à côté.
Oui.
Avant
ouais. Et un club de MMA ne peut pas... ne peut pas se dire on va faire directement du MMA sans...
Il faut une base.
Voilà, sachant que le MMA, ça va être nouveau en France, il est légalisé. Ça va être très nouveau. Les combattants ne peuvent pas se dire de venir débutant à quasiment professionnel.
C'est un sport en lui-même.
C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer que chaque club de MMA en France va devoir et va avoir un spécialiste dans chaque domaine. C'est-à-dire qu'au début, ils vont commencer par les bases du judo, ensuite les bases du karaté, les bases de la boxe, pour qu'ensuite chaque adhérent puisse se compléter au fur et à mesure, et ainsi après commencer à faire du vrai MMA, et par la suite commencer... Je suis désolé, vous verrez que ça se passe comme ça. Ouais. Pour ma part, on va dire que j'en ai déjà fait du MMA, pas en France, mais au Luxembourg par exemple, j'en ai déjà fait, et je peux vous dire que le niveau d'un débutant, il est obligé de commencer par les bases. S'il n'a pas les bases, il ne pourra jamais faire ce sport, ou voire il va se faire très très mal, voire même pire.
Et même en continuant le MMA, il sera toujours obligé de suivre un autre sport en parallèle pour toujours améliorer ses qualités, comme l'équilibre, tout ce qui est sol, tout ça. Il est toujours obligé de suivre une autre pratique en parallèle pour percer dans le MMA.
Et dans ce cas-là, c'est quelle fédération sportive qui va accueillir le MMA ?
C'est une bonne question, ça.
Elle n'existe pas. Il n'y a pas de fédération.
Si, la fédération s'appelle l'UFC. L'UFC est une licence. C'est la licence du combat.
En France, on parle du niveau national.
C'est une licence internationale. Pour l'instant, ils vont créer une filiale de l'UFC parce que l'UFC, c'est la licence internationale du MMA. C'est la seule licence qui accepte de prendre en charge le MMA, que ce soit aux États-Unis ou bien au Japon. Les deux pays qui ont légalisé en premier le MMA. Du coup, ça va être une fédération sous la licence de l'UFC. Comme en Allemagne, ils ont créé des fédérations qui vont s'inscrire dans la licence UFC. Ça va être une fédération, oui, sous licence de l'UFC, comme je le répète.
C'est-à-dire qu'au niveau national, on organisera beaucoup de tournois de
C'est de ça, MMA. Ce sera d'événements, ce sera des combats en fonction du niveau, ce sera dans les événements, il y aura des grands événements sportifs parce qu'il y a quand même des combattants français qui ne peuvent pas s'entraîner en France vu que ce n'est pas légalisé. Il y en a même un, je ne me rappelle plus de son nom, qui a été champion du monde, qui a eu la ceinture de champion du monde en UFC, en MMA. Et par la suite, il y aura des grands événements, que ce soit Paris-Bercy ou tous les grands trucs comme ça.
C'est donc un sport professionnel ?
C'est ça.
D'accord. Oui, il y a des combattants professionnels.
Et au niveau amateur, comment ça se passe du coup ? Parce qu'il n'y a pas que des professionnels. Eux, on parle des professionnels qui ont déjà pratiqué plusieurs sports de combat. Mm-hmm. Mais les amateurs, ceux qui commencent, qui veulent commencer le MMA, ils vont faire quel sport en fait ?
Mais il y a aussi des combats amateurs.
Voilà.
De MMA ?
Oui, on voit beaucoup sur YouTube. C'est pour ça que...
En France, non, mais regardez juste dans nos pays voisins, comme la Belgique ou le Luxembourg, on voit déjà ça. Donc pourquoi la France ne l'a pas encore ?
On voit en France aussi, on voit au bord des terrains de foot sur YouTube. On ne va pas citer les YouTubeurs qui présentent ces vidéos-là, mais il y a beaucoup de combats et il peut y avoir des accidents mortels. Il n'y en a pas eu, mais très graves.
Il peut.
Dans tous les sports, il peut y avoir des accidents mortels.
Mais le MMA, c'est un remix de tout.
Le foot est catégorisé comme plus dangereux qu'un sport de combat. Au foot, on peut avoir des blessures qui peuvent vous rendre handicapé à vie.
Certes. Mais le foot est aussi plus populaire.
Des blessures qui atteignent directement le cerveau.
Ah, le football américain ?
Le football américain, c'est très dangereux.
Le rugby ? Chaque sport a son degré de dangerosité. La boxe anglaise, le ski.
Mais
même le ski de fond, c'est un sport dangereux.
Ils ont fait un effort en réduisant le nombre de rounds. C'était 8 rounds auparavant, maintenant c'est 5. C'est déjà bien, c'est déjà un effort. Mais moi, je pense qu'il faudrait encore descendre encore parce que c'est très dangereux. Ça peut apporter des lésions très graves au cerveau. Alors que quand on voit au foot américain que ça a des lésions aussi graves, on imagine mal quelqu'un qui se prend un coup de genou dans la tête, ce que ça va lui apporter.
Ouais, mais
dans la durée, pas parce que là, ce qu'on lit sur Internet, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun mort en professionnel dans une cage de MMA, mais au niveau amateur, je pense qu'il y a eu des lésions très graves à terme.
Dans ce cas-là, s'il faut réduire le temps d'un round ou les rounds dans un combat de MMA qui sont de 5 fois 5 minutes, un round c'est 5 minutes à peu près, il y en a 5, voire ça dépend des fois 3. Il faudrait réduire le temps d'un match de football américain, réduire le temps d'un combat de boxe. Parce que je vais vous rappeler, il y a ça pas très longtemps, il y a 2 ou 3 semaines, un boxeur professionnel est mort sur le ring.
Ouais.
Du coup, c'était que de la boxe anglaise, c'était pas de la MMA.
Bien sûr.
La MMA, on taxe la MMA de vouloir tout le temps... Par exemple, une personne qui tombe KO directement, elle se fait frapper directement dessus. Maintenant, il y a l'arbitre qui est là pour arrêter le match dès qu'il voit que la personne n'est plus à l'état. C'est pour ça qu'il y a un arbitre. C'est pas un sport de rue. Ça reste un sport encadré, que ce soit dans la cage qui est souvent taxée de déshumanisant, mais en fait, c'est plus pour protéger les combattants, pour pas qu'ils tombent, vu que c'est qui tombe en dehors du ring, vu qu'il y a aussi de la lutte qui est mélangée dedans, qui soit projetée hors du ring. Du coup, la cage permet d'encadrer tout ça. L'arbitre est là. Il y a tous les juges qui sont autour de la cage.
Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui est interdit dans la MMA ?
Qu'est-ce qui est interdit dans la MMA ? Ouais. Au niveau des coups ?
Oui, oui. Au niveau de tout, même.
Alors...
D'un point de vue global.
Point de vue global. Alors, tout ce qui est interdit, coups dans les parties, c'est complètement interdit. D'où la nécessité pour un combattant de porter une coque.
Coup dans les parties,
ouais, d'accord,
c'est ça. Coup dans les yeux.
Dans les yeux.
Tout ce qui est...
Doigts dans les yeux.
Pardon ? Les doigts dans les yeux, oui. Gorge. Dès que vous tapez sur la gorge, c'est interdit. Après, tout le reste, ça reste du forme du combattant. C'est-à-dire
quand
tout ce qui.
Au sol, on n'a pas le droit de taper avec les pieds.
Voilà, c'est
dans
ça.
Le visage.
Dès que la personne commence à être KO, l'arbitre arrête directement le match pour pas que ça nuise à sa santé personnelle.
Mais dans ce cas-là, quand ils sont debout, les coups de genou à la tête, c'est sont autorisés.
Oui.
Du coup, ça peut provoquer des graves lésions. Comme j'en parlais tout à l'heure, on peut parler de cyborg. Vous voyez,
ouais,
le crâne fendu en deux.
Mais je vais vous.
C'est très dangereux quand même.
Je vais vous sortir une étude qui a été menée par les chercheurs de Glenn Sutter Sport Medical Clinic aux États-Unis, qui prouve que les combattants de la MMA ont besoin, certes, souvent de soins médicaux réguliers, mais que les traumas et les pertes de connaissances et autres chocs cérébraux sont généralement beaucoup plus présents chez un boxeur qui fait de la boxe anglaise que plutôt chez un combattant de MMA. Une étude sortie il y a de ça 2 ans.
Je pense qu'on peut pas vraiment mesurer cette étude parce que il y a beaucoup plus de boxeurs que de combattants MMA.
Oui.
Et que il y a beaucoup plus de, c'est plus encadré, donc
on peut
vérifier. Le problème du MMA, c'est que c'est pas légalisé. Du coup, on peut pas savoir les vraies conséquences.
C'est légalisé dans les autres pays.
Aux États-Unis, c'est légal. Au Japon, c'est légal.
Ce sont les deux seuls pays d'ailleurs.
Non, il y a l'Allemagne.
Il y en a beaucoup ou pas?
Ouais, il y en a beaucoup. Il y a l'Allemagne, il y a le Brésil notamment. Il y a.
Est-ce que c'est la majorité des pays qui l'ont autorisé?
Je dirais oui. Il y a quand même beaucoup plus de pays qui l'ont autorisé que de pays qui l'ont interdit. Après, il y a d'autres sports de combat qui sont semblables à la MMA, mais qui ne sont pas de la MMA.
Oui, mais la MMA en elle-même.
La MMA en elle-même a été légalisée dans beaucoup de pays. Je dirais à peu près dans plus d'une trentaine de pays.
Ouais. Et
en fait, la France est en train de nager à contre-courant de cette légalisation de ce sport.
Et vous pensez que s'il devenait légal en France, ça serait le sport numéro 1?
Numéro 1, je pense pas, parce que...
En termes de combat, je parle.
En termes de combat.
Sport de combat, arts martiaux, etc. Non?
Je pense pas, parce que la fédération de judo est quand même bien présente en France. Elle est bien représentée aussi par tous les combattants qu'on a, Chumeo, Teddy Riner.
Ah, mais même le président de la fédération française de judo a déclaré que si... le MMA a été légalisé, une grande partie des adhérents du judo partirait pour le MMA. Ça veut dire qu'un sport aussi présent que le judo, parce que c'est un sport important, le judo en France, perdrait au niveau international.
Non, parce que d'une part, il serait obligé de quand même rester dans le judo pour être bon en MMA.
Les combattants seront des combattants de MMA. Ce sont des combattants qui vont se spécialiser dans le judo pour devenir bon dans le MMA, pas pour devenir bon dans le judo.
Oui, mais après, comme toute chose nouvelle, c'est sûr que ça va prendre un certain temps à se développer et à vraiment, vraiment grandir en France.
Voilà, les gens vont vouloir aller chercher la nouveauté. C'est pas parce qu'on va aller chercher la nouveauté qu'on va s'inscrire à la MMA
qu'on va
persévérer
voilà.
Dans la MMA. On va pouvoir retourner au judo et après, que ce soit la fédération de judo, la fédération de karaté, va retrouver ses adhérents.
D'accord, mais les valeurs que porte le judo et les valeurs de la MMA sont différentes quand même.
Ça reste un sport de combat, les valeurs sont les mêmes. Tout sport
valeurs.
De combat a les mêmes valeurs. Le respect de
l'environnement.
Quand même dans la recherche du chaos.
Alors que, par exemple, dans le judo, on est dans le... Pardon, excuse-moi.
On est plus quand même dans le chaos.
Alors que dans le judo, nous sommes dans le respect de l'intégrité de l'autre, au judo, par exemple.
Vous parlez de l'intégrité physique?
De tout, oui. Les valeurs, en général, globales, sont assez différentes, quand même.
Je ne trouve pas. On va dire que, pour ma part, j'ai trouvé les mêmes valeurs, que ce soit dans le judo... Dans le karaté ou dans la boxe thaïlandaise, par exemple, j'ai trouvé les mêmes valeurs que pour moi. Tous les sports de combat apportent la même valeur, que ce soit discipline, régularité, respect de l'autre, respect de l'adversaire. Sinon, avant chaque combat, on ne saluerait pas l'adversaire. Ou après chaque combat, on n'irait pas serrer la main de l'adversaire ou de toute l'équipe qui est en face.
Donc, c'est juste la finalité qui change, mais pour moi, c'est pareil. Voilà. Toutes les valeurs sont respectées, quel que soit le sport de combat.
Alors, c'est donc la fin. En tout cas, merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci, de rien.
Merci.
Bonne journée à tous. Hein.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne journée. Alors, merci beaucoup à tous les intervenants de cette émission.
N'oubliez pas Radio Franca sur 96 FM.
On peut aussi retrouver les podcasts sur le site franca-on-r.fr. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.